Vous écoutez, on lit pour vous.
Trump plus GAFAM égale danger. Un texte de Nathalie Collard, paru le 18 février 2025 dans la presse. Dans ses romans, Dave Eggers imagine une société contrôlée par une méga-entreprise technologique. Dans la vraie vie, l'écrivain américain voit les géants du web s'agenouiller devant Donald Trump. Et il a peur. Dave Eggers est l'un des écrivains phares de sa génération. En plus d'être journaliste, il est l'auteur de plusieurs succès comme « Un hologramme pour le roi »,« Le grand quoi » et « Le cercle ». Je l'ai joint à San Francisco pour parler de son plus récent livre « Le tout » chez Gallimard, dans lequel une entreprise imaginaire, imaginez la fusion entre Facebook et Amazon, contrôle tous les aspects de la vie des gens. Bien sûr, j'avais également l'intention de lui parler de la situation politique dans son pays s'il le voulait bien. Or, j'avais à peine dit bonjour qu'il était lancé. C'est de la folie au quotidien ici, lance Dave Eggers, au bout du fil. Je suis originaire de Chicago, mais j'habite la Californie depuis 30 ans maintenant. Les grands patrons de la technologie ont toujours été opposés aux républicains et ils étaient opposés à Trump lors de son premier mandat. Ils dénonçaient son anti-intellectualisme, ses positions anti-immigration, son racisme. C'est complètement incroyable pour nous de voir ces faux libéraux soudainement à genoux pour plaire à cette horrible personne. Dave Eggers, qui a couvert la première campagne Trump et qui a signé des textes dans plusieurs publications, dont le Guardian et le New York Times, estime que cette soumission de la Silicon Valley rend le contexte politique américain encore plus épeurant. Avec la technologie, dit M. Eggers, ils rendent possible la folie de Trump en renommant, par exemple, le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Google n'avait aucune obligation d'aller dans ce sens, et ça fait craindre pour la suite. Dave Eggers se retrouve dans une position un peu surréaliste, lui qui signe avec Le Tout, paru en anglais en 2021, une dystopie qui, aujourd'hui, semble plus près de se concrétiser. Dans son roman, la population est sous le joug de cette méga-entreprise qui espionne ses moindres gestes, qui lui indique ses bons et moins bons comportements, et qui lui suggère un vocabulaire plus approprié. Avec Le Tout, j'avais envie d'écrire un livre plus satirique que Le Cercle, explique Dave Eggers. Il y a certaines choses que je n'ai pas écrites, car elles me semblaient trop farfelues et aujourd'hui, je n'en suis plus aussi certain. J'ai demandé à Dave Eggers si le dialogue était encore possible aux États-Unis entre des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions politiques. J'avais un ami de Chicago en visite la semaine dernière, raconte-t-il. Il a voté pour Trump deux fois et on a dû établir qu'on se contenterait de parler de sujets comme nos enfants, mais qu'on ne parlerait pas de politique car on ne s'entend sur rien. C'est très difficile d'avoir un dialogue ouvert et bien informé, car on ne peut même pas s'entendre sur les faits. Comme un culte. Durant la première campagne de Donald Trump, Dave Eggers a couvert plusieurs rassemblements pro-Trump. Il note qu'à l'époque, ses supporters avaient un certain recul. Les gens disaient « Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais… » ou « Il est un prédateur sexuel à l'état pur, mais… » Aujourd'hui, ce genre de commentaire n'existe plus. L'identification au culte Trump est plus forte, poursuit-il, avant. Les gens votaient pour lui honteusement, mais aujourd'hui, des personnes éminentes ne se gênent plus pour dire qu'elles ont voté pour lui. Que dirait Dave Eggers à un ami canadien ces jours-ci pour le réconforter? L'écrivain a un rire un peu désespéré. Je termine une nouvelle ces jours-ci qui raconte l'histoire d'une grande famille californienne dont un des membres est sénateur. il se demande s'il est temps pour la Californie de se séparer du reste des États-Unis. On en parlait en 2016 et l'idée revient en force ces jours-ci. C'est irrationnel de demeurer au sein d'une union qui veut qu'un homme condamné par la justice et carrément raciste occupe la Maison-Blanche. Il y a des gens qui souhaitent autre chose pour ce pays, surtout chez nous sur la côte ouest. On pourrait créer une société beaucoup plus moderne qui ressemblerait davantage au Canada et à l'Europe. Je ne dis pas que je suis sécessionniste, mais c'était intéressant d'explorer ça par le biais de la fiction. Dave Eggers s'inquiète aussi de toutes ces attaques contre le gouvernement américain et de l'initiative menée par Elon Musk pour dégraisser l'appareil gouvernemental. Ce serait bien que les gens sachent ce que le gouvernement fait ou ne fait pas, dit-il. Quand on ouvre le robinet et qu'il y a de l'eau potable, c'est le gouvernement. Quand on conduit sur une route asphaltée, c'est le gouvernement. Dave Eggers n'hésite pas à montrer du doigt le vent libertarien en provenance de la Silicon Valley qui souffle sur Washington. Ces gens estiment qu'ils en savent plus que n'importe qui, et Elon Musk incarne cette arrogance. Comme si, parce que tu gères un moteur de recherche ou que tu fabriques une voiture, tu as les connaissances pour mieux gérer le département des finances qu'une personne qui y travaille depuis 20 ans. Ces gens croient que la solution à tous les problèmes est technologique. En finir avec la passivité. Dave Eggers ne s'en cache pas. Il est irrité par notre passivité collective face aux géants du web, les fameux GAFAM. On a le pouvoir, comme individu, d'affamer ces entreprises en cessant de leur donner notre attention et notre argent, lance l'écrivain, qui refuse de posséder un téléphone intelligent. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser Google ou Instagram, poursuit-il. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on est obligé d'avoir un compte Facebook. Eggers rappelle que Facebook n'a que 20 ans. Mais on agit comme si c'était un système irrévocable avec lequel on a vécu durant des siècles, s'indigne-t-il. Vous souvenez-vous d'AOL, MySpace, Friendster? Toutes ces plateformes qui sont venues et sont reparties. Nous avons le pouvoir de changer le paysage. Pourquoi ne pourrions-nous pas créer des systèmes sans but lucratif, plus responsables? Dans le roman d'Eggers, la jeune de l'année s'infiltre dans l'entreprise, le tout pour la saboter de l'intérieur. Elle imagine des applications toutes plus intrusives les unes que les autres, comme celles capables de vérifier si votre ami vous aime vraiment, dans le but de provoquer un mouvement de révolte au sein de la population. Or, les gens acceptent sans broncher que le tout s'infiltre dans leur vie privée. Delaney n'est pas capable de choquer les gens, car l'application offre l'illusion d'une certitude, observe Eggers. Dave Eggers croit que les gens sont de plus en plus à l'aise avec l'idée d'être surveillés 24 heures sur 24. Le dernier bastion de la vie privée est la maison, et je ne crois pas que ça durera longtemps, lance-t-il. Dans 10 ou 15 ans, il y aura des caméras dans toutes les pièces. Elles seront une condition pour avoir droit au logement subventionné. Elles seront installées pour des raisons de sécurité, surveiller les enfants, prévenir la violence domestique. Et il ne sera pas possible de dire non, car on vous répondra « Mais qu'avez-vous à cacher ?» C'était « Trump plus GAFAM égale danger », un texte de Nathalie Collard paru le 18 février 2025 dans la presse.
Le parcours inspirant de Richel Cloutier, un texte de Kim Desormeaux, paru le 10 février 2025 dans La Revue. La persévérance scolaire est un enjeu crucial pour de nombreux jeunes qui cherchent à tracer leur chemin vers un avenir prometteur. Richel Cloutier, 16 ans, en est un exemple vivant. Ambassadrice de la persévérance scolaire cette année, au Centre de formation professionnelle des Moulins, Elle nous raconte son parcours hors du commun, ponctué de défis, de résilience et d'ambition. Originaire de Montréal, Richel Cloutier a vécu une scolarité peu conventionnelle. Elle a fait sa maternelle à la maison, sous la supervision de sa mère, avant d'intégrer l'école primaire Denise Pelletier, où elle a fait ses études jusqu'à la quatrième année. Dès la cinquième année, ses enseignants ont décelé certaines difficultés académiques, mais ont tout de même décidé de la faire progresser en sixième année avec un soutien adapté. On m'a envoyé dans une classe avec une clause de CIA, ce qui me permettait d'utiliser divers outils pour m'aider durant les examens. Cela m'a beaucoup aidé à m'adapter et à mieux comprendre la matière, explique-t-elle. Son cheminement au secondaire a suivi une trajectoire tout aussi unique. Elle a effectué son secondaire 1 à 3 à l'École de l'Odyssée, dans un programme de formation de métiers spécialisés. En plus de ses cours académiques, elle a participé à des stages qui l'ont initiée au monde du travail. Ce programme m'a permis de voir à quoi ressemblait le marché du travail et de me préparer à un futur emploi, raconte Richel. L'importance du soutien et de la détermination. La route n'a pas été sans embûches. Richel a fait face à l'intimidation au primaire et au secondaire, une réalité difficile qui aurait pu compromettre sa motivation scolaire. Cependant, elle a su surmonter ses difficultés grâce à son caractère résilient. « Je suis quelqu'un qui passe par-dessus les choses. J'ai appris à ne pas laisser les événements du passé m'affecter et à me concentrer sur mon avenir. » Elle souligne aussi l'importance des enseignants et des services de soutien qui lui ont permis d'aller de l'avant. « Je n'ai jamais redoublé d'années, mais j'ai souvent eu besoin d'aide supplémentaire. J'allais en récupération et je profitais des reprises d'examen pour m'améliorer. Mes professeurs étaient toujours là pour m'aider, dit-elle avec reconnaissance. » Une carrière en construction. Aujourd'hui, Richel Cloutier poursuit ses études en matériaux composites au Centre de formation professionnelle des Moulins. Un choix qui pourrait surprendre, mais qui lui permet de conjuguer passion et ambition. Ce qui me motive, c'est l'idée d'être indépendante et d'avoir un avenir stable. Mon rêve ultime est de me sentir bien dans ce que je fais et d'avoir une situation financière confortable, affirme-t-elle. Dans le cadre de sa formation, elle effectue actuellement des stages chez Bombardier et aspire à y faire carrière. « Si tout se passe bien, j'aimerais vraiment rester chez Bombardier », confie-t-elle avec enthousiasme. L'histoire de Richel Cloutier est un rappel que chaque étudiant progresse à son propre rythme et que la réussite peut prendre diverses formes. Son message aux jeunes qui traversent des épreuves similaires, ne lâchez pas. Peu importe les difficultés, il y a toujours une solution. Trouvez votre voie et donnez-vous les moyens de réussir. Avec sa détermination et son ambition, nul doute que Richel Cloutier continuera d'inspirer de nombreux jeunes sur le chemin de la persévérance scolaire. C'était le parcours inspirant de Richel Cloutier, un texte de Kim Desormeaux, paru le 10 février 2025 dans la revue.
Montréal envisage d'empêcher les journalistes d'intervenir devant ses commissions permanentes, un texte de Jeanne Corriveau, paru le 20 janvier 2025 dans Le Devoir. Les journalistes ne devraient pas être autorisés à poser des questions lors des séances des commissions permanentes de la Ville de Montréal, selon un rapport déposé au conseil municipal le lundi 20 janvier 2025. Le 17 novembre 2023, en pleine tourmente entourant la gestion déficiente à l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM, des journalistes présents à une séance de la Commission sur les finances et l'administration avaient profité de la période de questions des citoyens pour interroger Isabelle Beaulieu et Dominique Olivier, anciennes dirigeantes de l'organisme qui témoignaient ce jour-là. Plus tard dans la journée, la mairesse Valérie Plante avait annoncé qu'elle recommanderait la destitution d'Isabelle Beaulieu et la mise sous tutelle de l'organisme. De son côté, Dominique Olivier avait déjà démissionné de son poste de présidente du comité exécutif. Un citoyen s'était plaint de voir la période réservée au public se transformer en conférence de presse, jugeant que les droits des Montréalais s'en trouvaient brimés. Ce citoyen est Robert Perrault, un ancien conseiller municipal et ami de Dominique Olivier. Un mandat avait alors été donné à la commission de la présidence du conseil, composée d'élus des différentes formations politiques, pour qu'elle se penche sur la question. Dans un rapport entériné à l'unanimité par ses membres, la commission de la présidence du conseil suggère à la ville de modifier les règlements encadrant les commissions permanentes afin d'y préciser que le terme « citoyen » exclut les journalistes, de manière que ceux-ci ne puissent plus prendre la parole lors de la période de questions du public. Le document fait valoir qu'il existe des canaux privilégiés pour les journalistes afin d'obtenir réponse à leurs questions, notamment le service des relations médias de la ville. La commission est convaincue que ces modifications réglementaires contribueront à favoriser la participation des citoyennes et citoyens à la prise de décision, souligne le rapport. Les journalistes interviennent rarement lors des travaux des commissions permanentes, mais le président de la Commission sur les finances et l'administration, Pierre Lessard-Blais, avait estimé à l'époque qu'il était nécessaire de leur donner l'occasion de questionner les deux anciennes présidentes de l'OCPM. Dans ce dossier-là, il y avait une crise de transparence, une crise de confiance du public, avait-il expliqué en décembre 2023. On le sait, lors de la tenue de cette commission, il y avait encore des intervenants qui refusaient de répondre à des médias et, dans un contexte de transparence, on croyait que c'était important que les personnes répondent non seulement aux commissaires, mais aussi aux médias. La FPJQ préoccupée. Le conseil municipal pourrait être appelé à trancher sur la question à une date ultérieure, mais la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ, s'inquiète de cette proposition qu'elle voit comme un obstacle supplémentaire au travail des représentants des médias. L'enjeu peut paraître anodin, mais il demeure préoccupant, estime Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ et journaliste à la presse. C'est un frein de plus qui s'ajoute pour rendre plus difficile le travail des journalistes et l'accès à l'information. Les travaux des commissions sont des événements publics, et c'est le rôle des médias d'informer la population. Je ne pense pas que le fait de permettre aux journalistes de poser des questions empêche les citoyens de le faire, avance-t-il. Le cabinet de la mairesse Valérie Plante précise que les propositions de la commission de la présidence du conseil seront analysées et que le comité exécutif aura à se prononcer sur la question. La transparence et l'accès à l'information sont primordiaux pour notre administration, soutient le cabinet dans une déclaration transmise au Devoir. Les commissions et leurs périodes de questions mobilisent des groupes, des experts, des membres de la société civile et la population qui se prononcent sur des sujets précis qui sont accessibles pour les membres des médias et au grand public, comme le sont le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. En tout temps, les journalistes peuvent formuler leurs questions et leurs demandes d'entrevue en marge des commissions. Serge Sasseville, conseiller indépendant dans l'arrondissement de Ville-Marie, a dénoncé la recommandation formulée par la commission. les journalistes jouent un rôle fondamental dans la démocratie et ce sont aussi des citoyens et des citoyennes, a mentionné lundi lors de l'Assemblée du Conseil municipal, celui qui a travaillé pendant plus de 30 ans au sein de Québecor. Je suis absolument contre les conclusions de ce rapport, qui m'apparaissent hautement contestables devant les tribunaux, comme une violation de la liberté de presse garantie par les chartes. C'était « Montréal envisage d'empêcher les journalistes d'intervenir devant ses commissions permanentes », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 20 janvier 2025 dans Le Devoir.
Les gros cactus. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 17 février 2025 dans Le Devoir. À la radio de nos impôts, il était question, ces jours derniers, d'emplois en apparence inusités. Directeur du bonheur ou encore directrice de la bienveillance. Ce sont des professions qui ont émergé sous différents noms sucrés dans plusieurs entreprises. Des emplois inspirés par des pratiques managériales issues de la Silicon Valley, en particulier du géant Google. Une chaîne de restauration au Québec compte, selon ce modèle, sur une directrice de la bienveillance, rapporte Radio-Canada. On l'entend se raconter au micro, le sourire dans la voix. Elle révèle un de ses récents conseils aux employés. Cessez de considérer l'actualité. Elle les invite à se détourner des journaux, tout comme des réseaux sociaux, afin de neutraliser la colère, l'angoisse, les craintes et les frustrations qui germent avec la mauvaise conjoncture actuelle. Au nom des apparences d'une bienveillance, ce paternalisme classique affirme l'intérêt des entreprises à formater leurs employés de sorte qu'ils se concentrent sur leurs opérations. Les questions de société se trouvent, pour les compagnies, avantageusement enserrées puis broyées dans l'étau de velours des seules perspectives individuelles. Ce discours doucereux sur le bonheur personnel permet de supplanter des discussions sur la justice et la solidarité. Cette stratégie malaisante, bordée de projections psychologisantes, consiste à vous détourner de la réalité pour vous faire croire que tout repose sur l'individu jusqu'à s'aveugler sur le pouvoir de celui-ci. Ce qui conduit à ce que l'on nommait, en d'autres temps, « faire l'autruche ». Chacun ne sait-il pas très bien ce qui arrive à ceux qui se mettent la tête dans le sable en pensant éviter ainsi leur malheur autant que leur prédateur? Les temps ont changé. Des cactus se sont mis à pousser comme des champignons. Certains voudraient pourtant qu'on continue de s'asseoir dessus comme si de rien n'était, comme s'il était possible d'ignorer ce qui nous arrive collectivement. Ils font comme s'il était concevable, en ce moment, de descendre d'un train en marche. Vous ne pouvez pas être neutre dans un train qui roule sur les rails de l'histoire. Où en sont-ils d'ailleurs avec le bonheur du côté de la Silicon Valley? Les grands barons du royaume du numérique ont tous plié les chines, les uns après les autres, sans même sourciller, pour se placer à la file indienne derrière Donald Trump. En moins de 2 semaines, le monde a changé de cap avec leur bénédiction. Qui peut s'étonner, après cela, de voir Google avaliser, en un tour de main, la volonté d'un mégalomane de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique? En si bon chemin, d'ailleurs, pourquoi n'a-t-il pas renommé le Nouveau-Mexique? La nouvelle tromperie, ce serait si joli. Il est loin le temps où, à ses commencements, Apple célébrait les anticonformistes en affirmant « Think different ». Le Big Tech a adhéré au trumpisme, corps et âme. Pour notre malheur, voilà le nouvel horizon de leur bonheur. L'anti-intellectualisme s'est érigé en système de gouvernement. Il se nourrit de cette obsession viriloïde qui sert le nouveau suzerain américain. Le discours xénophobe, sous cette impulsion nouvelle, a développé une vigoureuse autonomie jusqu'à rendre vie à de vieux fantômes qu'on croyait oubliés. Ce délire collectif, hautement contagieux, semble désormais prendre le pas sur tout, même sur la rationalité économique. À moins d'être assez masochiste pour éprouver pareille destruction sociale comme une jouissance d'un type nouveau, comment pourrions-nous trouver plaisir dans une telle glissade collective où même la paix du monde semble vaciller à la vitesse grand V? Il apparaît clair désormais que Poutine est autorisé à ne faire qu'une bouchée de l'Ukraine, tandis que J.D. Vance affirme devant l'Europe qu'il ne voit pas de problème particulier du côté de la Russie ni de la Chine. Sommes-nous en train de rêver? Préparez-vous à connaître des élections canadiennes sous forte influence étrangère trumpiste. Reste que cette situation dystopique comporte peut-être une dimension encourageante. Depuis longtemps, il nous était annoncé que l'autorité des États s'était effacée. Le pouvoir politique était globalement réputé comme ayant changé de main au profit des grandes entreprises. Un travail de sape s'était opéré à l'intérieur même des États, mené par toutes sortes de Margaret Thatcher de ce monde. Ceux-là chantèrent en chœur, la hache à la main, les intérêts des seuls financiers, au mépris de la protection des institutions qui leur étaient confiées. Rien que la question de la privatisation du réseau d'aqueduc en Angleterre, désormais dans un état criminel, suffirait à condamner pareil régime d'idées si on se donnait seulement la peine d'en faire enfin le procès. Or, le coup d'État trumpiste, même s'il pousse encore plus loin le mépris de la société, permet au moins de montrer, par l'absurde, que les géants transnationaux peuvent se coucher aux pieds d'un gouvernement pour peu qu'on hausse le ton devant eux. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité devant les grandes entreprises. Prenons le cas d'Amazon. Au prétexte qu'il s'agit d'une société privée, le premier ministre du Québec, François Legault, a laissé faire. Il a tout de suite baissé les bras, alors que l'entreprise coupait les jambes à plus de 4000 travailleurs. Les parfums nauséabonds qu'a connus le monde dans l'entre-deux-guerres se font de nouveau sentir. Devant la montée probable du chômage, le même François Legault nous affirme que les malheureux pourront être conscrits dans de nouveaux chantiers hydroélectriques. Comme dans les années 30, en somme, où des contingents de chômeurs se voyaient mobilisés pour édifier Valcartier ou encore des marchés publics. Évidemment, relancer de mauvaises solutions datées à notre actualité ne va pas la changer. Il faut trouver mieux. Avez-vous lu que le sérieux magazine Harper's indiquait que 80% des Américains croient désormais qu'une troisième guerre mondiale est inévitable? C'était « Les gros cactus », un texte de Jean-François Nadeau paru le 17 février 2025 dans Le Devoir.